Welcome to the debate. Imaginez un peu un dirigeant qui remporte, disons, près de 90% des suffrages lors de la toute première élection libre de son pays. C'est un triomphe absolu, non?
Oui, un triomphe sur le papier. Mais à peine 6 mois plus tard, ce même président doit fuir sa propre capitale sous les tirs d'artillerie. C'est quand même fou.
Exactement. C'est la situation assez ahurissante de la Géorgie, en fait, le 26 mai 1991. L'ascension et la chute de Zviad Gamsakhourdia. La vraie question aujourd'hui, c'est de savoir si ce scrutin, c'était vraiment une naissance démocratique ou bien, disons, une simple illusion statistique.
Une illusion basée sur l'exclusion, oui. Moi, je soutiens clairement que cette victoire mathématique masquait des fractures ethniques majeures et une vraie fragilité institutionnelle. La guerre civile était presque inévitable.
Alors que, pour moi, je suis convaincue que cette élection était un mandat incontestable. C'était la réaction de survie d'un peuple face à l'oppression soviétique.
Mais comment on peut parler de mandat incontestable quand on regarde la mécanique de l'élection elle-même ?
Ben, regardez le contexte psychologique. Le 9 avril 1989, l'armée soviétique réprime une manifestation pacifique à Tbilissi. Il massacre 21 civils, je rappelle, à coups de pelles de tranchées.
C'est vrai, cet événement est horriblement traumatisant.
Traumatisant, c'est le mot. Ça a totalement détruit la légitimité communiste. Et après la mort de Merab Kostava, Gamsakhourdia est le seul grand dissident encore en vie. Pour des millions de gens, voter pour lui, c'est pas juste un choix politique.
Non, c'est sûr.
C'est la seule façon de s'affirmer en tant que nation face à l'Empire, vous voyez ?
Je vois bien, oui. Sauf que cette affirmation nationale s'est faite en étouffant complètement toute alternative. Je veux dire, les médias d'État ont littéralement agi comme si Gamsakhourdia était déjà au pouvoir. Les autres candidats étaient invisibles.
Ils étaient juste beaucoup moins populaires, c'est tout.
Pas seulement. La carte électorale elle-même était amputée. En Ossétie du Sud et en Abkhazie, on a assisté à un boycott massif des bureaux de vote. Et c'est pas un accident, hein. Les autorités locales là-bas voyaient la rhétorique de Tbilissi comme une menace existentielle.
Oui, enfin, ce boycott existait, je ne le nie pas. Mais honnêtement, la Géorgie n'avait pas vraiment le luxe de faire dans la nuance à ce moment-là.
Pas le luxe ? C'est quand même grave de dire ça.
Bah non. Le pays subissait un blocus économique de Moscou, l'administration Bush refusait de les soutenir diplomatiquement pour ne pas froisser Gorbatchev. Face à ça, ils avaient besoin d'un bloc monolithique pour vraiment acter la rupture avec l'URSS. C'était un référendum de survie, en fait.
Mais ce fameux référendum de survie a causé leur propre perte. Ce bloc monolithique dont vous parlez a aliéné, quoi, près de 30% de la population qui n'était pas d'ethnie géorgienne.
30%, oui. Mais la majorité avait parlé.
La majorité a surtout offert à Moscou l'arme parfaite, en fait. En brandissant ce nationalisme, le Kremlin a juste eu à attiser et armer les séparatismes ossètes et abkhazes. Ça a créé un vide sécuritaire immense.
Attendez, l'effondrement ne vient pas des urnes, ni même directement de la diplomatie russe. Il vient d'un coup de force totalement illégal.
Illégal, certes, mais prévisible.
Et Krizioni et la garde nationale n'étaient pas des électeurs déçus, hein. C'était des paramilitaires lourdement armés qui ont assiégé le Parlement en créant des combats de rue. C'est la violence des milices qui a tué la démocratie géorgienne, pas le programme de Gamsakhourdia.
Sauf que ces milices ont pu prendre le pouvoir uniquement parce que l'État que Gamsakhourdia dirigeait était vide. Les gens avaient élu un mythe, un symbole dissident.
Un symbole puissant qui les unissait.
Oui, mais ils ont ignoré des signaux d'alarme flagrants. Comme sa confession télévisée de 1977, où il cède au KGB et renie ses activités de dissident. Ses partisans ont juste effacé ce passé.
Parce qu'ils avaient besoin d'un leader face à l'urgence.
Et quand l'hiver est arrivé, avec les pénuries critiques d'électricité et de carburant, le mythe a volé en éclats. Face au froid, les discours idéologiques ne suffisent pas pour chauffer les maisons. Quand les milices sont attaquées, le peuple était tellement épuisé et désillusionné qu'il a juste laissé faire.
Je trouve que vous réduisez un élan d'indépendance historique à une simple erreur de gestion étatique. Cette écrasante mobilisation de 91 reste une victoire retentissante contre le totalitarisme.
Une victoire de façade, malheureusement. Ça prouve qu'un résultat peut être mathématiquement écrasant, mais complètement creux institutionnellement. Un mandat fondé sur l'identité ne survit pas à son premier hiver.
Ce qui nous ramène, au final, à la réalité physique de l'avenue Roustavéli. La même rue où on a fêté la résurrection euphorique d'une nation peut devenir une ligne de front quelques mois plus tard. Ça montre bien que la démocratie exige beaucoup plus qu'une simple victoire dans les urnes.
Tout à fait. Et c'est ce qui rend cette période si importante à analyser pour comprendre la fragilité des transitions démocratiques. Il y a encore énormément à explorer sur ce sujet.